моя, чтобы дивизия вперёд, чтобы с бою взять Приморье, верной армии того, чтобы с бою взять...
Alors cette conférence et la troisième date de mon cycle pour la promo de la sortie de mon ouvrage Dictionnaire des consciences révolutionnaires. Donc je fais une conférence par mois et j'essaye d'articuler les conférences entre elles. Et donc après l'étude de la bourgeoisie conservatrice à Paris, c'était au mois de décembre, après l'étude des penseurs postmodernes à Lyon, on avait un camarade qui était présent. Aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait parler de la culture révolutionnaire, du mouvement révolutionnaire en tant que tel. Et je vous remercie encore de vous être déplacé pour entendre parler de cette thématique, parce que j'ai remarqué qu'il y a quand même un paradoxe en ce moment dans notre société, et j'ai envie de dire dans nos cœurs, puisque plus personne ne veut entendre parler de l'histoire de la culture révolutionnaire, de l'histoire révolutionnaire, à cause on pourrait appeler ça comme une sorte de répulsif que constitue l'histoire du communisme et l'histoire du socialisme. Et malgré tout, la révolution est dans toutes les têtes, à cause de la Macronie, à cause de tout un tas de phénomènes dont on parlera. Mais voilà, il y a cette espèce de paradoxe qui fait qu'on a une aspiration vers la révolution et en même temps on ne veut plus s'intéresser à ce qui s'est passé historiquement, culturellement, ce qu'ont fait nos ancêtres révolutionnaires quelque part à cause de l'URSS. Et donc le communisme, le socialisme, c'est devenu un peu un gros mot. C'est devenu une sorte de... Voilà, il n'y a plus vraiment beaucoup de... On n'a plus de crédit à accorder à ces mots-là, malheureusement. Alors aujourd'hui, je vais tenter de résoudre ce paradoxe avec vous. Et donc, on va parler de la culture révolutionnaire parce que dans l'ouvrage, j'essaye de mettre en valeur des rapports dialectiques et j'y défends l'idée que la culture révolutionnaire, dialectiquement, c'est peut-être un peu choquant d'un prime abord, est l'héritière de la culture bourgeoise. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire que, à mon sens, la véritable vocation, la mission historique de la bourgeoisie, elle était double. C'était assurer ce que j'appelle la production, c'est-à-dire la gestion économique et sociale, et ce qui veut dire finalement, en termes très concrets, dompter le capitalisme. Donc ça, c'était sa première mission, première responsabilité historique de la bourgeoisie, et dans un deuxième temps, procéder au développement de la raison. Et cette mission, épistémologiquement parlant, je le démontre dans l'ouvrage, finalement, c'est la culture révolutionnaire qui l'a poursuivi, c'est le mouvement révolutionnaire qui l'a pris sur ses épaules. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la bourgeoisie a rejeté cette responsabilité en se compromettant, d'après moi, avec le capitalisme, et ça remonte à l'histoire, je dirais, à partir du XVIIe siècle, donc c'est ce que j'ai développé dans ma conférence de Paris sur le jésuito-cartésianisme, etc. Donc si vous voulez, on en parlera dans les questions-réponses. Et dans un deuxième temps, la culture bourgeoise a développé ce qu'on appelle une pensée réactionnaire qui est vraiment marquée à partir du 19e siècle. Et concrètement, après avoir refusé différentes propositions civilisationnelles incarnées par des auteurs dont on a parlé, typiquement par exemple après avoir refusé Rousseau, les propositions civilisationnelles de Rousseau, après avoir refusé les propositions civilisationnelles de Voltaire, et après même plus précisément avoir escamoté leurs propositions à travers les encyclopédistes et la Révolution de 1789 et les Lumières, après avoir refusé toutes ces propositions, la bourgeoisie a refusé l'apport des idéalistes allemands. Les idéalistes allemands, Fichte, Schelling, Kant, on peut citer Hegel, après on peut débattre est-ce que Hegel est un idéaliste, etc. Mais je pense que c'est très intéressant et très important d'avoir ce parcours en tête, ce parcours épistémologique en tête, parce que justement les idéalistes allemands, ces penseurs-là, Fichte, Schelling, Kant et peut-être Hegel, proposaient à la bourgeoisie de reprendre à bras-le-corps sa responsabilité pour éviter sa décadence, qui avait déjà été entamée, je vous le dis, à partir du XVIIe siècle, à cause de sa compromission avec le capital. Et les idéalistes allemands, lorsqu'on veut bien les comprendre de ce point de vue, finalement, avaient pris conscience de cette compromission et avaient pris conscience du caractère, je dirais, prédateur et illimité du capitalisme, de la menace capitaliste. Et c'est à l'aune de cette... cette perspective que je les interprète dans le livre, notamment ces penseurs. Donc la bourgeoisie, après avoir refusé ou refoulé Pascal, ça c'est pareil, je l'ai démontré dans ma conférence de Paris, après avoir refusé Rousseau, après avoir refusé Voltaire, après avoir refusé Kant, après avoir refusé Hegel, finalement toutes ces propositions sociales, philosophiques, peut-être métaphysiques, qui étaient finalement des propositions de continuation de l'épopée bourgeoise, la bourgeoisie, après avoir refoulé tout ça, eh bien, comment s'étonner de la naissance de la culture révolutionnaire. Comment aurait-il pu en être autrement, finalement, puisqu'on était arrivé au bout du bout. Et il fallait bien dépasser l'impasse, quelque part. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve l'origine sociale de la majorité des théoriciens révolutionnaires, puisque c'est le thème de la conférence. Quasiment tous sont issus des classes dominantes. Bourgeoisie, noblesse, aristocratie. Je vais vous les citer dans l'ordre, non pas chronologique, dans l'ordre alphabétique, et je vais vous citer ceux que j'ai traités dans l'ouvrage, dont j'ai fait les portraits dans l'ouvrage. Bakounine. Bakounine, grand révolutionnaire, est issu de la noblesse russe. C'est un fils de diplomate qui est devenu conseiller politique avec des lointaines origines hongroises. Engels, l'acolyte de Marx, est le fils d'un industriel du textile. On peut parler de Hegel aussi, à la limite, je vous le dis, Hegel, on ne sait pas comment le classer, mais si on veut le mettre dans cette catégorie-là, Hegel est aussi un fils de bourgeois. Son père est fonctionnaire, sa mère est juriste. Kropotkin, grand révolutionnaire, libertaire, anarchiste, c'est le prince Kropotkin. Kropotkin est le descendant du grand prince de Kiev. On peut parler de Lénine. Lénine est un fils de noble. Alors sa famille, c'était des marchands, des médecins qui ont été anoblis, mais voilà, c'est quand même ce milieu-là. Je rappelle que Lénine a été influencé par quelqu'un comme Plekhanov, qui est lui-même un aristocrate. Loukache, alors Loukache, c'est le XXe siècle, mais bon, on peut en parler, je le traite dans l'ouvrage. Loukache est le fils d'un baron et d'un grand banquier de Budapest, une des familles les plus riches d'Europe de l'Est, d'Europe centrale. Marx, fils d'avocat, fils de marchand, bon, qui descend d'une lignée de rabbins, mais ça c'est pareil, on en discutera. Et même Georges Sorel, dont je me revendique, est issu de la petite bourgeoisie commerçante du nord de la France. Bah, normande d'ailleurs, bon, on n'est pas en Normandie, mais voilà. Tous, quasiment tous issus des classes dominantes, sauf Pierre-Joseph Proudhon, qui est le seul théoricien révolutionnaire réellement issu, on va dire, des classes ouvrières, du prolétariat. Bon, on développera sur Pierre-Joseph Proudhon peut-être dans les questions-réponses. Et à mon sens, il est important de mettre en avant cette dialectique pour réellement comprendre, appréhender les enjeux, et même les enjeux actuels, de la même manière que dans ma conférence de Lyon la dernière fois, j'ai démontré que les ignobles post-modernes, les penseurs postmodernes du XXe siècle, déconstructivistes de gauche, les Sartre, les Derrida, les Deleuze, les Foucault, etc. Eh bien, ils sont tous issus, si on veut bien avoir le courage de lire leur filiation, ils sont tous issus de la bourgeoisie conservatrice. Ils sont tous issus de la bourgeoisie de droite. Et c'est peut-être pas un hasard si finalement tous ces penseurs postmodernes ont refusé l'apport révolutionnaire de la vision hegélienne au XXe siècle, puisque c'était le thème de ma conférence. Donc il y a des filiations et il y a parfois des transformations comme ça culturelles à travers lesquelles il faut être capable de lire les intérêts réels et fondamentaux, et j'ai envie de dire parfois de classe. Donc la culture révolutionnaire, elle s'est finalement proposée d'accomplir ce que la promesse bourgeoise prétendait, c'est-à-dire refouler l'emprise du capitalisme sur la production et refouler l'emprise du capitalisme sur la raison. Ça veut dire le concret, l'économique, et ça veut dire les esprits. Et ça, c'est les questions fondamentales du marxisme, si on veut bien le comprendre. C'est-à-dire que la question de l'emprise du capitalisme sur la production, c'est la question des rapports de production, c'est la question du travail. Et la question de l'emprise du capitalisme sur les esprits, sur la raison, c'est la question de l'aliénation, c'est la question de la réification, c'est la question de la fétichisation, fétichisme de la marchandise. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut interpréter la culture révolutionnaire et l'histoire du mouvement révolutionnaire. Et la culture révolutionnaire, elle veut, elle doit prétendre accomplir l'émancipation, terme générique, par justement ce développement et cette libération. Mais on va aller plus loin. Qu'est-ce que ça a donné réellement, l'histoire du mouvement, la culture révolutionnaire? Qu'est-ce qu'a donné historiquement la culture révolutionnaire? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Et accessoirement, parce qu'on peut peut-être faire une sorte de bilan, pourquoi elle a échoué? Pourquoi ça a échoué? Puisque, comme vous le savez, nous ne sommes pas dans l'ère de la culture révolutionnaire. Hein. Je développe dans l'ouvrage, en précisant que nous sommes aujourd'hui plutôt soumis à ce que j'appelle la culture plutocratique. On débattra peut-être de ça tout à l'heure, qui serait la, non pas la dégénérescence, mais la reprise en main de la culture bourgeoise, le dépassement de la culture bourgeoise, la passation de pouvoir entre la culture bourgeoise qui a finalement renié ses fondamentaux et qui a laissé les plutocrates gérer l'organisation globale à sa place. Donc si on va à l'essentiel, au sein de la culture révolutionnaire, le marxisme a écrasé la concurrence. Mais il faut bien avoir à l'esprit, c'est ce que j'essaye de faire avec cet ouvrage, il faut bien avoir à l'esprit que ce n'était pas une fatalité et qu'il y a eu des guerres entre les tendances socialistes, les tendances révolutionnaires, les tendances communistes, entre les différents protagonistes du mouvement révolutionnaire. Il y a eu des guerres, et à mon sens, il y a eu deux guerres principales, parce que je ne vais pas toutes les développer ici, mais pour moi, il y a deux guerres principales qu'il faut retenir dans l'histoire de la culture révolutionnaire. C'est la guerre entre Marx et Engels, qui est son acolyte, ça fonctionne en binôme, et Proudhon. La guerre Marx-Proudhon, voilà, déterminante dans l'histoire de la culture révolutionnaire. Et la guerre entre Marx et Bakounine. Prédominante aussi, notamment par rapport à la Première Internationale. Alors là, la guerre entre Proudhon et Marx, j'en ai déjà beaucoup parlé. Peut-être qu'on redéveloppera dans les questions-réponses, parce que j'ai peut-être un peu l'impression de me répéter. Mais en deux mots, Marx l'a emporté en partie parce que sa vision était plus limpide, elle était plus directe, elle était plus immédiate. Elle s'adressait réellement aux ouvriers de la grande industrie du 19e siècle, grande industrie urbaine, des ouvriers de la grande industrie urbaine, des villes. Alors que Proudhon, lui, c'est vrai, avait une proposition plus ardue, plus austère, qui visait les travailleurs des campagnes. Voilà, donc Marx était plus dans l'air du temps, et à mon sens, bien qu'il y ait tout un tas de facteurs à prendre en considération dans cette opposition entre Marx et Proudhon, parce que quand je vous parle d'une guerre, il y a véritablement eu une guerre, hein, entre ces acteurs-là et ce qu'ils représentaient. Mais je pense que c'est ça, majoritairement, qui explique la victoire de Marx sur Proudhon et la tendance qu'a pris la culture révolutionnaire. Et la deuxième guerre fondamentale, à mon avis, c'est la guerre entre Marx et Bakounine. Bakounine peut être passé de mode, pareil, un peu, on ne sait plus trop qui c'est aujourd'hui, donc ça tombe bien, j'ai le portrait dans l'ouvrage. Bakounine, c'était un militant de terrain. C'était vraiment un militant politique dur, qui a été d'ailleurs condamné à mort en Allemagne pour sa participation au Printemps des Peuples, milieu du 19e siècle, c'est-à-dire des événements insurrectionnels qui ont touché toutes les grandes villes de France, d'Allemagne, République tchèque, enfin de Tchécoslovaquie, pardon, à cette époque. Et parce qu'on ne se représente pas forcément le mouvement bouillonnant, l'effervescence du milieu social, un véritable climat de guerre civile sociale au niveau européen au milieu du 19e siècle. Et Bakounine était l'un des leaders. Il était reconnu pour ses capacités d'orateur. C'était quelqu'un qui apparemment était assez passionné dans sa manière de s'exprimer, et donc il avait cette capacité à captiver les foules. Et il y a eu une grosse rupture entre Marx et Bakounine, qui se sont fréquentés d'abord à Paris, qui se sont croisés, voilà, en Suisse avec Proudhon, bon, voilà, mais déjà dès le début les rapports étaient un peu distendus. Mais il y a eu une véritable rupture entre ce que représente le marxisme et ce que représentait Marx, Engels, et ce que représente Bakounine et le bakouninisme lors de la Première Internationale. Et à ce moment-là, Marx et Engels vont tout faire pour mettre de côté Bakounine et ses idées et ses militants et ses réseaux, parce qu'il voit d'un très mauvais œil justement les capacités d'orateur, de leader de Bakounine, qui était un peu, qui se définissait lui-même comme un sentimental, ouais, qui arrivait à transmettre une énergie par son discours. Bakounine, fondamentalement, est plus proche finalement de Proudhon. Il est plus proche peut-être, il préfigure peut-être Sorel, il est plus anarchiste que communiste, et donc il est plus éloigné de Marx, puisque sa vision, qui reste socialiste, est anti-autoritaire, dans le sens où elle veut, effectivement c'est le côté libertaire de Bakounine, elle veut l'abolition de l'État, l'abolition du capital, l'abolition de Dieu, mais elle rejette la dictature du prolétariat, et elle rejette la constitution de parti politique, puisque c'est ça qui définit la proposition de Marx et d'Engels à ce moment-là, c'est constituer des partis politiques violents pour que, dans l'optique de leur prise du pouvoir, et instaurer la dictature du prolétariat. Donc fondamentalement, Bakounine est en opposition, et c'est un adversaire de ce communisme. Mais plus globalement, c'est un adversaire de la centralisation. C'est encore une fois, c'est son côté libertaire. C'est un adversaire des institutions qu'il ressent comme une oppression. Donc Bakounine, c'est un des précurseurs du mouvement fédéraliste. Mouvement fédéraliste dont, à mon avis, que Proudhon, sur lequel Proudhon a énormément travaillé aussi, le principe fédéraliste, et qui, à mon avis, est l'un des enjeux de la période actuelle. En termes politiques très concrets pour nous, je pense que la question fédéraliste, la question mutualiste développée par Pierre-Joseph Proudhon, la question du droit ouvrier développée par Pierre-Joseph Proudhon, tout ça c'est des choses qu'il faut réactualiser pour mener notre combat social à nous, j'ai envie de dire, en France, à notre époque. Et donc c'est intéressant de puiser aussi dans ces penseurs-là, sans forcément jeter le bébé avec l'eau du bain, en disant « mais regardez l'URSS, et puis Marx, et nanana, nanana ». C'est ce que j'essaye de faire dans cet ouvrage. Donc Bakounine se définit non pas comme communiste, mais il se définit comme collectiviste. D'ailleurs, je voulais vous lire une citation que j'ai mise dans l'ouvrage, de Bakounine lui-même, qui précise son point de vue. Donc je vous la lis, c'est rapide. Je déteste le communisme parce qu'il est la négation de la liberté et que je ne puis concevoir rien d'humain sans liberté. Je ne suis point communiste parce que le communisme concentre et fait absorber toutes les puissances de la société dans l'État, parce qu'il aboutit nécessairement à la centralisation de la propriété entre les mains de l'État, tandis que moi, je veux l'abolition de l'État. Je veux l'organisation de la société et de la propriété collective ou sociale de bas en haut, par la voie de la libre association, et non de haut en bas, par le moyen de quelque autorité que ce soit. Voilà donc dans quel sens je suis collectiviste et pas du tout communiste. Et je vous cache pas que je vais me faire plaisir en lisant ce que Bakounine disait de Marx à proprement parler, parce que je l'ai mis dans l'ouvrage aussi. Des propos, donc là c'est moi, je me cite moi-même, des propos clairs auxquels on peut ajouter les précisions suivantes, non négligeables, bien qu'attribuées à la passion et à l'ère du temps. Et là je cite Bakounine. Ayant ainsi un pied dans la banque, les Juifs viennent de poser ces dernières années l'autre pied dans le socialisme. Eh bien tout ce monde juif qui forme une seule secte exploitante, une sorte de peuple sansu, un parasite collectif dévorant et organisé en lui-même, non seulement à travers les frontières des États, mais à travers même toutes les différences d'opinion politique, ce monde est actuellement, en grande partie du moins, à la disposition de Marx d'un côté et des Rothschild de l'autre. Je sais que les Rothschild, tout réactionnaires qu'ils doivent être, apprécient beaucoup les mérites du communiste Marx, et qu'à son tour, le communiste Marx se sent invinciblement entraîné par un attrait instinctif et une admiration respectueuse vers le génie financier des Rothschild. La solidarité juive, cette solidarité si puissante qui s'est maintenue à travers toute l'histoire, les unit. Et donc j'ai conclu ce portrait par de quoi faire réfléchir sur les véritables enjeux du mouvement révolutionnaire. Effectivement, ce sont des paramètres à prendre en considération. Cette citation qu'on pourrait qualifier d'antisémite de Bakounine nous permet aussi de mieux resituer les rapports entre révolutionnaires au sein du mouvement révolutionnaire. Et de ce point de vue-là, Bakounine rejoint aussi certaines envolées de Proudhon qui considérait Marx comme le ténia du socialisme. C'est une phrase assez connue et qui avait aussi qualifié Rothschild et Marx d'être méchants, bilieux, envieux, âcres, qui nous haïssent. Bon, c'est des proses que j'aime lire, que j'aime rappeler, mais sans forcément dire qu'elles sont absolument déterminantes dans la question que je vous expose aujourd'hui, dans notre problématique. Bref, le marxisme, en tant que modèle idéologique, l'a emporté. Voilà, c'est factuel, c'est un constat. Maintenant, je vous propose d'entrer dans les détails. Quel marxisme l'a emporté ? Et j'ai la prétention de penser que finalement c'est une certaine interprétation du marxisme et du communisme qui l'a emporté historiquement. Et à mon avis, c'est l'interprétation utopique et scientifique de Marx qui elle-même héritée malgré elle d'une certaine conception bourgeoise qui l'a emporté et qui fait que la culture révolutionnaire finalement a elle aussi rejoint le positivisme au XXe siècle par le biais du matérialisme dialectique. Ce que je veux dire par là, c'est que les échecs de la culture révolutionnaire s'expliquent en partie par cette mainmise d'une certaine interprétation du marxisme. Cette interprétation du marxisme a fait passer la science avant la philosophie. Cette interprétation du marxisme s'est arc-boutée sur une téléologie qu'on appelle spécifiquement la théorie des cinq stades de l'évolution historique. Alors, dans le jargon marxiste, la théorie des cinq stades de l'évolution historique, c'est simple, c'est le communisme primitif, l'esclavagisme, le féodalisme, le capitalisme, et dernier stade de l'évolution, le communisme comme fin de l'histoire. Donc c'est pour ça que je vous parle de téléologie, c'est cette idée effectivement linéaire. Et malheureusement, c'est cette conception téléologique qui ressemble finalement à l'idéologie du progrès qui est fondamentalement bourgeoise et que je considère, encore une fois je vous le dis, positiviste et donc qui reposant sur les mêmes bases que la culture bourgeoise, c'est finalement peut-être ça qui explique la décrépitude de la culture bourgeoise et de la culture révolutionnaire, et son échec. C'est cette tendance générale scientifique et matérialiste qui a notamment engendré le grand repoussoir universel, l'URSS. Alors évidemment, là je saute des médiations, on pourrait débattre de tout un tas d'événements, mais il y a quand même cette filiation et je ne vais pas nier le fait que, et pourtant je suis là pour appuyer là où ça fait mal sur cette question, mais je ne vais pas nier le fait que l'URSS constitue effectivement, à juste titre, un repoussoir, dans le sens où elle a effectivement connu et incarné une phase despotique. Il faut le reconnaître. Et ce grand repoussoir universel qui est l'URSS a délégitimé pour longtemps, malheureusement, la culture révolutionnaire dans son ensemble. À tel point qu'historiquement, la culture révolutionnaire a dégénéré. Elle a dégénéré car elle s'est dépolitisée. Je vous parlais tout à l'heure du fait de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et à mon avis, la culture révolutionnaire, par sa dépolitisation, a dégénéré en ce que j'appelle la culture populaire. C'est-à-dire que c'est encore une culture existante, mais dépossédée de ses prétentions politiques d'émancipation, justement. Quand la culture bourgeoise, ce que je vous disais tout à l'heure, a, elle, laissé place carrément à la culture plutocratique. Mais après 35 ans de purgatoire, puisque la chute du mur de Berlin, 1991, environ 35 ans de purgatoire, je me demande si l'heure n'est pas venue d'exhumer les germes de la culture révolutionnaire et d'essayer d'y retrouver des outils pour notre période, surtout à une période où la prédation capitaliste est de plus en plus offensive. Et là, je peux parler tout simplement du Great Reset. Je pense que il va falloir quand on comprend bien ce que représente et ce qu'incarne le Great Reset en termes de menace, je pense qu'il va falloir effectivement être de plus en plus radicaux sur cette question. Question de la résistance. Alors, faut-il abandonner la culture révolutionnaire? La réponse que j'apporte, c'est non. Il faut la régénérer, et c'est pour ça que j'ai écrit cet ouvrage, qui constitue, j'espère, une base à la régénération de la culture révolutionnaire. Et il faut avoir le courage de se replonger dans son passif et dans sa boîte à outils, car chez Proudhon, chez Sorel, chez Lucas, chez Lukács notamment, se trouvent de véritables trésors. Et ça serait... Ça serait, comment dire, se tirer une balle dans le pied pour nous de ne pas y puiser au moins certains outils. Et j'ai envie de dire, même chez Marx, un Marx peut-être débarrassé du marxisme, un Marx peut-être débarrassé des marxiens, peut-être débarrassé des marxologues, un Marx repensé. Alors moi, je vous encourage à creuser les travaux du grand penseur italien Costanzo Preve, qui réinterprète Marx et qui nous livre un Marx... enfin, qui nous dit que le Marx scientifique et matérialiste dont je vous parle était finalement un véritable abus épistémologique. Et ce grand penseur qui est Costanzo Preve, qui est décédé en 2014, revient honnêtement, lui, sur les, en tant que marxiste, revient honnêtement sur les erreurs de Marx, à savoir principalement que le prolétariat n'est pas intrinsèquement une classe révolutionnaire, c'était une des grandes erreurs de Marx, et que la bourgeoisie n'est pas forcément parasitaire, puisque notamment je le démontre dans l'ouvrage avec la phase ascendante de la bourgeoisie, et que le capitalisme, lui, n'est pas forcément improductif, puisque c'était par exemple, c'était une des thèses de Marx aussi. Tout ça pour réinterpréter le communisme comme, enfin c'est ce que fait Costanzo Preve, tout ça pour réinterpréter le communisme comme l'accomplissement de la véritable tradition de l'Occident. Et ça, c'est vraiment des travaux que je vous encourage à creuser. La véritable tradition de l'Occident, selon lui, serait effectivement l'épanouissement de la tendance anti-individualiste. Et donc, elle se serait incarnée chez Marx, mais elle se retrouve aussi chez des penseurs comme Aristote ou chez des penseurs comme Hegel. Et il faut réinterpréter cette histoire de la pensée à l'aune de ce prisme. Et donc, la véritable tradition de l'Occident n'est pas... Enfin, pardon, le communisme n'est pas à être interprété comme un projet, forcément comme un projet despotique, un projet d'ingénierie, un projet ultra-égalitaire, voilà, qui serait mort avec l'URSS en 1991, et que certains, justement, essayent aujourd'hui de nous faire passer pour l'idéologie derrière le Great Reset. C'est-à-dire, on entend cette critique chez les droitards que, soi-disant, Klaus Schwab, c'est Marx. Je pense que si on ne fait pas le travail honnête, justement, de déblayage de toutes ces questions, on n'avancera pas et on restera bloqué dans une forme d'inertie. Donc non, les derniers développements du capitalisme post-bourgeois, post-prolétarien, du Great Reset, n'ont à mon sens rien de communiste. Donc le communisme, le socialisme du 21e siècle, à mon avis, devra et sera peut-être moins arrogant que le communisme, le marxisme, que le socialisme qu'on a connu, mais peut-être plus juste s'il vise au développement des conditions culturelles, sociales, politiques, de l'émancipation. Et ça peut être le travail de tout à chacun, donc c'est pas forcément s'arc-bouter ou s'accrocher, je vous le dis, à un projet très précis, très incarné de constitution effectivement d'un bloc communiste et d'une prise de pouvoir par la dictature du prolétariat, etc. Mais par contre, ça nous encourage individuellement et en tant que groupe constitué à travailler à notre libération. Et c'est le travail de tout à chacun, mais a fortiori, c'est le travail d'égalité et réconciliation, puisque je vous rappelle que nous sommes, égalité et réconciliation, le premier mouvement anti-oligarchique de France, jusqu'à ce qu'on démontre le contraire. Et c'est là-dessus que je voulais conclure. Donc, rejoignez-nous, camarades, et on marche vers l'émancipation et la libération des consciences. Merci.